On va commencer, Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 11, sur le chapitre 11 du Tanya, Igaret HaTshuva. Donc dans ce chapitre, on a expliqué l'importance de la joie dans la Teshuva. Et on s'est arrêté longuement la semaine dernière sur la question, peut-on être triste et joyeux en même temps? Pourquoi je parle de tristesse? On parle de tristesse parce qu'a priori, une personne qui fait Teshuva s'attriste sur son passé. Pour ses fautes. Donc il devrait être triste. Mais d'un autre côté, la Torah nous enjoint de servir à Kadosh Baruch Hu toujours dans la joie. Donc peut-on être joyeux et triste en même temps? On a donné plusieurs éléments de réponse et on en aura d'autres aujourd'hui. Premier élément de réponse qu'on a donné, on l'a appris ça de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, cette semaine par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a appris que justement, une fois il était en présence de son père, qui délivrait des commentaires extraordinaires sur la destruction du temple pour expliquer les enjeux de la destruction du temple. Et Rabbi Elazar raconte, il dit, un côté de mon cœur pleurait et un autre côté de mon cœur était joyeux. Un côté de mon cœur pleurait parce que je réalisais l'ampleur et la gravité de la destruction du temple. Mais d'un autre côté, un autre côté de mon cœur rigolait, dansait, était joyeux parce que je réalisais à quel point le commentaire de mon père était profond. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. Donc de là, on apprend que au même moment, on peut être joyeux et triste en même temps. Seulement, c'est pas pour la même chose. Donc, c'est la même chose d'une personne qui fait de Teshuva. D'un côté, il peut être triste sur son passé. Il a un passé, etc. Et d'un autre côté, il peut être joyeux. Pourquoi il peut être joyeux? Parce que grâce à Dieu, il a découvert la lumière. Il a trouvé la lumière. C'est un premier élément. Un deuxième élément de réponse sur lequel on a beaucoup développé la semaine dernière et on va développer encore aujourd'hui. C'est la notion qu'une personne en général qui fait de Teshuva, très souvent, malheureusement, il a des remords. Il a des doutes. Ai-je été pardonné ou pas? Est-ce que Dieu m'a pardonné ou pas? Est-ce que ma tchouva a été acceptée ou pas? Et ces remords ne le quittent pas. Ces remords ne le lâchent pas. C'est ce qui fait que c'est une personne qui est triste. Pas triste à cause de ses fautes. Triste à cause du doute. Est-ce que je pourrais un jour revenir? C'est un grand problème, ça. C'est-à-dire que les gens prennent des directions dans leur vie. Ils font des choses. D'accord? Ils sont là, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, ils font de tchouva. Mais ils ont un passé, ils ont un passif qui est là. Ils ont un casier. Il y a un casier, il est là le casier. Maintenant, même si officiellement le casier a été clos, on n'en parle plus. Mais des fois la personne se dit, oui, ils me disent qu'ils m'en parlent plus, mais j'ai un casier. On sait que dans le domaine juridique, des fois il y a des gens comme ça qui croient qu'ils n'ont pas de casier. Et tout d'un coup, des années après, quand il y a une petite histoire, ils sont arrêtés pour un truc, rien du tout quoi. On dit, ah oui, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez 14 ans, etc. avec... Elle me dit, mais je croyais que c'était l'affaire était classée. Oui, l'affaire est classée, mais toujours là. Elle est classée, pas de problème, mais elle est là. Donc des fois, il y a des gens qui sentent la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Tu me dis, slach lanou, pardonne-nous. Bon, pardonne-nous. Mais est-ce que Dieu nous a-t-il réellement pardonné?
268.
Ça, c'est le doute. Le doute, ce qui nous empêche de nous rejoindre. D'accord? Alors, c'est quoi la définition qu'on a expliquée ici? On a expliqué qu'on doit avoir la emouna, le bitachon, on doit avoir la confiance que Dieu nous a pardonné. Pourquoi? Qui te garantit que Dieu t'a pardonné? Qui tu te prends pour dire que Dieu m'a pardonné? C'est très simple. Il suffit de voir le texte de la tefila. Le texte de la tefila, on nous dit la chose suivante. On nous dit, slach lanu avinu kichatanu. D'accord? On nous dit, Akadosh Baruch Hu, pardonne-nous car tu nous as fauté. Et qu'est-ce qu'on dit juste après? Baruch Ata Hashem, Chanun Hamarbe l'Histoire. Béni sois-tu, Akadosh Baruch Hu, le miséricordieux Hamarbe l'Histoire qui pardonne beaucoup. Ça veut dire quoi? On a expliqué la semaine dernière qu'Akadosh Baruch Hu, pas comme un être humain qui pardonne une fois, qui pardonne deux fois, mais qu'à un moment il dit basta, Akadosh Baruch Hu, il peut te pardonner 1000 fois d'affilée pour le même problème. À condition que tu es sincère. C'est ça en vérité la complexité de l'être humain. C'est que d'un côté il fait de tchouva et quand il fait de tchouva, il est à 100% dedans, 100% il ne recommencera pas.
Il va plonger.
Et d'un autre côté on sait qu'il va replonger. Mais quand il disait qu'il ne voulait pas recommencer, il était sincère. Comment ça marche? Alors Dieu ne voit pas le fait que tu vas recommencer. Dieu il voit la sincérité que tu avais quand tu dis que tu ne recommences pas. C'est pour ça que Dieu te dit, je te pardonne, sans voir ce qu'il y avait hier, sans voir ce qu'il y aura demain. Ce qu'il y aura demain, c'est pas mes affaires. Ce qu'il y avait hier, c'est pas mes affaires. Moi, je vois aujourd'hui. Devant moi, j'ai un juif qui, de tout son cœur, il m'a dit, papa, je recommencerai pas. Je le prends, je le pardonne. Oui, mais tu sais très bien qu'hier, il a fait la même chose. 100 fois. Il sait très bien que demain, il va recommencer. hier, demain, c'est pas mes affaires. Moi, je le prends tel qu'il est aujourd'hui. Vous savez, ça, c'est une valeur, la teshuva, très importante. On raconte, d'ailleurs, ça nous a coûté très cher, cette valeur. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a donné l'instruction à Avraham d'écouter sa femme. Sa femme lui a dit, renvoie Agar, je ne la veux pas ici. Donc, il l'a renvoyé à Agar.
Écoute son cœur.
Il l'a renvoyé à Agar. Elle a été renvoyée, bon, il y a une fois, une deuxième fois, etc.
Avant qu'elle ait
Ishmael. Elle a été renvoyée, non, justement. Non, elle a été renvoyée une deuxième fois, il y avait Ishmael qui était là, elle était avec son enfant. Première fois, elle est revenue. Une fois, elle est partie, elle est revenue. Après, une deuxième fois, elle a renvoyé avec son enfant. Voilà. Et ils se sont perdus dans le désert. Et elle avait soif.
Ah oui, l'enfant, oui.
Elle avait soif. Alors, il y a un ange qui est venu et il a dit va donner à boire à l'enfant, Baasher ou Sham, tel qu'il est là-bas. Tel qu'il est là-bas. C'est vrai, tel qu'il est là-bas. Et bien, vous regardez le commentaire de Rachid qui va sur la Gemara. Il dit qu'en fait, au moment où Ishmael avait soif, le petit Ishmael avait soif, il y avait des anges accusateurs dans le ciel qui ont dit à quoi bon lui donner à boire.
Ah oui,
parce que on va le faire vivre, grâce à ça, il va se maintenir, d'accord, il va être sauvé. Mais on sait pertinemment, et ça s'est passé, que des années plus tard, des millénaires, enfin, en tout cas, plusieurs siècles plus tard, les Bnei Israël, une fois, auront très soif. Ils seront de passage à côté des ressortissants d'Ishmael. Ils leur donneront à boire. Et par méchanceté, qu'est-ce qu'ils feront? Ils leur donneront des outres pleines d'air. Et eux, ils seront là en train de, les Juifs, ils vont être là en train d'essayer d'attraper de l'eau. Et l'air va les étouffer, ils vont mourir. Ouais. Ça s'est passé comme ça. Donc, les anges ont vu ça.
Tu lui rends service,
c'est ça. D'accord. Les anges ont vu ça. Et les anges, ils ont dit, à quoi bon sauver Ishmael? Voilà ce qu'il va donner.
Ah oui, ouais.
Donc, arrêtons le problème à la source.
Oui.
On l'a rien fait, on l'a pas tué. Il a pas d'eau.
Laisse tomber.
Il a pas d'eau. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Il a dit non. Il a dit, Bachar ou Sham. Je le prends tel qu'il est maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant, le petit?
Mais Dieu, Hachem, il savait très bien, il a vu la
vie. Oui, justement, c'est la réponse. Bah, Hachem ou Cham?
Bah oui.
Hachem, il dit, moi, je le vois tel qu'il est maintenant. Le petit Ishmael, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait?
Oui, c'est un enfant, vraiment.
Il n'y a pas de prédéterminisme.
Ça aussi,
hein. Non, mais voilà, il n'y a pas de prédéterminisme. Ishmael, maintenant, comment il est? C'est un gamin qui a soif. Oui, mais de lui, il va descendre. C'est pas mes affaires. Ça va dans tous les sens. Donc, de la même façon pour nous aussi. Quand j'ai fait Teshuva, je me dirais, oui, mais Dieu, il sait que l'année prochaine, tu referas Teshuva sur la même chose.
Quelque part, il a...
Deux secondes. Dieu, il sait que dans deux ans, tu vas faire Teshuva sur la même chose. Qu'est-ce qu'il répond? C'est pas mes affaires.
Je croyais qu'on parlait que des Juifs.
Là. Non, c'est un concept de Teshuva. Mmh. Que quand on fait Teshuva, on doit avoir la Emouna.
Là, il s'accepte à tous les êtres humains.
Oui. Tout le monde. En particulier, tous les êtres humains.
Mais quelque part, il a trahi. Il a trahi Abraham.
Pourquoi?
Dieu a trahi Abraham. Parce que Dieu, il a dit à Abraham, de toi, je ferai un grand peuple, etc. Et il a dit à Ishmaël, de toi aussi, je ferai un grand peuple, etc.
En quel rapport? Non,
comment il peut promettre la même chose à deux personnes?
Ça, c'est ce que vous interprétez. Non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Non. Il a pas dit. C'est Yitzhak qui a dit ça, et avec Abraham. C'est clair. Le texte est clair. Maintenant, quand on veut déformer le texte, quand on veut modifier les noms, faire du plagiat, au lieu de mettre Yitzhak, on barre Yitzhak, on met Ishmael à la place. C'est ça qu'on parle.
Non, à part ça, Dieu, quand il est venu donner de l'eau à Ishmael, il lui a dit, de toi, je ferai une grande nation.
Non, il a pas dit, il a dit une grande nation. Ben, pourquoi c'est pas une grande nation, Ishmael?
Alors oui.
Oui.
Et alors, mais il nous a d'abord dit à nous, il nous a promis qu'on fera de vous, à Abraham, du peuple juif, un grand peuple.
Non, il a dit, toi, tu seras le descendant principal.
Nous, on est le grand peuple.
C'est nous le peuple principal. Non, mais c'est pas le thème aujourd'hui. C'est pas du tout le thème aujourd'hui. Monsieur Benita, je veux bien, si vous voulez, Revenons à la Teshuva. D'accord?
Allons, Teshuva.
Revenons à la Teshuva. Teshuva, ça veut dire retour. Revenons. D'accord? Non, mais c'est pas du tout, monsieur Benita, avec plaisir, je vais répondre à vos questions, mais c'est pas du tout le cours d'aujourd'hui. C'est un débat géopolitique, si vous voulez, c'est un débat intéressant, mais c'est pas du tout le cours d'aujourd'hui. Je vous en parle de Teshuva. Teshuva. C'est-à-dire, Teshuva, Hachem, il te dit, je te prends tel que tu es aujourd'hui. Et même si tu fais Teshuva 1000 fois sur la même affaire, Dieu te pardonne tout le temps. Donc, voici le deuxième élément de réponse. Premier élément, tout d'abord, on peut être triste et joyeux en même temps. Deuxième élément de réponse, pourquoi tu es triste? Parce que tu te dis, peut-être que Dieu m'a pas pardonné. Eh bien, je te dis, Dieu t'a pardonné. Et tu peux en être sûr que Dieu t'a pardonné. 100%. Dieu t'a pardonné. T'as fait une teshuva sincère, Dieu t'a pardonné. Point barre. Alors ça, c'est compliqué. Je suis à la page 269. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que d'un autre côté, ça ressemble un peu à un principe talmudique qui dit « à Omer et Cheta et Achouv ». D'abord, je vous fais à l'oral. Le Talmud nous dit la chose suivante. Celui qui dit « je faute et je ferai teshuva, on ne le laissera pas faire teshuva. Il y a des gens, des grands calculateurs, manipulateurs, calculateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font, c'est que, avant de fauter, ils ont déjà prévu comment ils feront teshuva sur la faute. Je m'excuse de donner cet exemple, mais c'est un exemple, là. Imaginez une personne, par exemple, tu vois, qui va aller tromper sa femme. Elle a trompé sa femme, il sait que c'est interdit. Son mec calcule, il dit pas j'ai craqué. Il calcule déjà avant de fauter comment il va faire pour récupérer sa femme après. C'est-à-dire, il sait que sa femme sera au courant, il a tout calculé. Mais il se dit, je vais faire ça, 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 et je vais le récupérer comme ça.
C'est crapuleux, c'est vraiment.
D'accord? C'est crapuleux, voilà. Oui, c'est je n'osais pas le mot. Ça veut dire, si encore tu me dis qu'il y a une personne qui est là, il a craqué. Bah, c'est plus fort que lui, et après, il essaie de plus recommencer, et après, il a recraqué. Bon, je veux bien, c'est la bourse, ça monte, ça descend. Mais là, c'est pas la bourse. Le gars,
il a tout prévu.
Il a prévu de fauter.
Ça sert à rien.
Ah oui, c'est grave.
Il a prévu de fauter. Et là, qu'est-ce que dit la Gemara sur son traité Yoma? La Gemara a dit une personne comme ça, Kadosh Baruch Hu, ne le laisse pas faire, tu vois. Donc, est-ce que, quelque part, on n'est pas dans ce jeu-là? Quand tu te retrouves plusieurs dizaines ou centaines de fois d'affilée à demander pardon à Dieu sur la même faute, est-ce que ça ne s'apparente pas, quelque part, au concept de fauter en comptant sur la Teshuva?
Apparemment, oui.
Non, mais je comprends.
De toute façon, il ne te laisse pas
fauter. C'est la question que je comprends. Donc
ça veut dire que s'il va te pardonner, ça veut dire que tu
l'es ben, comment ça marche? La Gemara dit que dans le temps, il y a le traité Yoma, et celui qui dit je faute et je ferai Teshuva, on ne le laisse pas faire Teshuva. Donc là, est-ce que le slach lanou avinu qui ratanou ne ressemblerait pas à ça? Tu demandes pardon sur une faute que tu as demandé hier, tu as demandé avant-hier, et que tu sais très bien que tu demanderas demain après-demain. Donc, quelque part, ça veut dire que tu as fauté en comptant sur la Teshuva. La réponse de Morazakin dit non, c'est faux. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. On va aller rentrer dans les mots. Et après, on va expliquer. Au milieu de la page 269. Ve'einze echeta ve'ashuv. Ce qu'on vient d'expliquer n'est pas comme le cas de celui qui dit je fauterai et je me repentirai. Pourquoi? Le cas dont la Gemara parle dans notre Yoma, page 85, c'est un cas dans lequel une personne, au moment de la faute, il pouvait se retenir. Et elle a sommé du bois la tchouva. Mais il a calculé, compté dans son cœur sur la tchouva. C'est-à-dire qu'il pouvait se retenir sans aucun problème. Mais il a compté. Et la reine, c'est pour cela. Il va tchouva goremet le larto. C'est très fin ce qu'il va dire ici. Puisque quelque part, c'est à cause de la tchouva qu'il a fauté. En ma speaking biado, on ne laissera pas faire tchouva. Vous suivez?
Ah oui.
Ça veut dire comme ça. Il y a un principe talmudique qui dit un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Donc ici, on va réfléchir ensemble. Tu avais une personne qui était devant une faute. Est-ce qu'il pouvait se retenir? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Pour fauter,
l'excuse bidon.
Il a compté sur la teshuva. Il a dit, non, mais c'est bon, je peux me retenir, mais j'ai la teshuva, t'inquiète, en règle, t'inquiète. Donc du coup, il a compté sur la teshuva pour fauter. Donc il a fauté à cause de
la tchouva.
À cause de la tchouva?
Bah oui.
Parce que s'il n'avait pas la tchouva à son esprit, il n'aurait pas fauté.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il a fauté à cause de la tchouva. Alors comment veux-tu que la tchouva, qui est l'accusateur,
c'est la cause,
qui est celle qui le fait fauter, va être celle qui le lendemain va le pardonner?
C'est impossible.
Hachem, c'est pas possible. T'as fauté à cause de la tchouva. Comment veux-tu que la tchouva te répare? Tu peux pas?
C'est logique.
C'est pour ça qu'on dit on laisse pas faire tchouva. Mais dans notre cas, c'est pas la même chose. Dans notre cas, même si je l'ai fait 100 fois d'affilée, chaque fois que je fais teshuva, d'abord chaque fois que je tombe, pourquoi je tombe? Parce que j'ai craqué. C'était pas une faute calculée. C'était une personne qui a craqué, premièrement. Et deuxièmement, lorsque je fais teshuva, je suis sincère à 100%. Donc, au moment où j'ai fauté, je ne comptais pas sur la teshuva. Au moment où j'ai fauté, j'étais omnibulé, j'étais aveuglé, j'ai craqué. Mais dès l'instant où j'ai terminé ma vera, je regrette tout de suite. Parce qu'en vérité, je comptais jamais sur la teshuva. Je fais teshuva tout de suite après. Donc ça n'a rien à voir. Et va nous dire l'admor Zaken même plus que ça en vérité. Qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara n'a pas dit que celui qui dit je faute et je ferai teshuva, il pourra pas faire teshuva. C'est pas ça ce qu'a dit la Gemara. La Gemara a dit celui qui dit je faute et je ferai teshuva, on le laissera pas faire teshuva.
C'est pareil?
Non, c'est pas pareil. Le laissera pas, c'est-à-dire qu'on lui mettra les bâtons dans les roues.
On va
lui mettre le bâton dans les roues. Maintenant, s'il force, il pourra faire, tu vois. Il aura beaucoup de mal. Tu comprends? Imaginez une personne qui est là en train d'essayer de grimper une montagne. Il est à vélo, tu lui mets des bâtons dans les roues. Des bâtons. Il avance pas, il enlève le bâton, tu lui remets un autre. Il enlève le bâton, tu lui remets un autre.
Ah, il va galérer.
Il va galérer, mais il peut arriver.
Ça va être plus long.
Seulement, ça va être un calvaire, mais il peut y arriver. C'est-à-dire que même celui qui a dit, je faute, en comptant sur la teshuva, c'était une faute préméditée, une faute calculée. Une faute calculée. Même une personne comme ça, on le laisse pas faire teshuva. Mais s'il force, il peut rentrer. Comme c'est connu le commentaire de la Gemara, il y avait un maître qui s'appelait Acher. Acher, c'est Elisha ben Avouya, qui était le maître de Rabbi Meir Balanes.
Oui.
Elisha ben Avouya, Acher, il a malheureusement quitté le droit chemin.
C'est ça.
Le maître de Rabbi Meir Balanes, il a quitté le droit chemin. Toute une histoire, comment Rabbi Meir Balanes a sauvé sa neshama, etc. Bon. En tout cas, il cherchait à sauver sa neshama, il a sauvé sa neshama. Et une fois, on a posé la question à Rabbi, c'est un rabbi, c'est un maître, c'est pas n'importe qui. Elisha ben Avouya. On lui a posé la question, pourquoi ne faites-vous pas teshuva? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, parce que j'ai entendu une voix du ciel qui disait, revenez, enfant rebelle, sauf Acher. Donc, sauf moi.
Clairement, tout le monde sauf lui.
Claire. Donc, c'est, clairement, dans le ciel, on m'a dit que je peux pas revenir. Ça manque explique sur ça le marcha. Rabbi explique aussi dessus. Il dit, la voix qui sort du ciel n'était pas pour dire qu'il peut pas faire teshuva. La voix du ciel était une façon de lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il entende ça et qu'il s'empêche de faire teshuva. Mais s'il avait forcé, il aurait pu passer. Parce que rien ne peut tenir devant la teshuva. À plus forte raison, si, en ce qui nous concerne à tous, enfin, s'il y a un vrai rachat qui se présente,
si c'est sincère,
en vérité, à plus forte raison, en ce qui nous concerne à nous, qu'il n'y a pas de faute reméditée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une faute dans laquelle je compte sur la teshuva. C'est très 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 rare les gens aujourd'hui comme ça. Qui, c'est-à-dire que, vous savez, bon, ça existe, ça existe, même dans, surtout chez les gens qui connaissent un peu la Kabbalah, tu vois. Ils savaient exactement combien de tikkun il faut pour telle faute. Donc, ils calculent, tu vois. Ils disent, bon, je vais aller avec telle faute, je vais aller avec telle femme, je vais payer tant, il a tout calculé. Il a payé. Non, c'est comme les fraudeurs. Comme le fraudeur ou comme ceux, par exemple.
Il
va frauder, il sait très bien qu'il va se faire arrêter, mais c'est un risque calculé. C'est pas un risque calculé. Il dit, je me fais arrêter, je paierai tant. C'est prémédité. Ou bien, par exemple, tu as des gens, qui vont ouvrir. Alors bon, ça, aujourd'hui c'est autorisé, mais à l'époque, par exemple, vous savez que ouvrir une boutique le dimanche dans certains du corps de métier, c'était interdit.
Bien sûr, en France.
D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on a autorisé de plus en plus, mais c'était interdit. Il y avait des boutiques aux Champs-Élysées qui ouvraient tous les dimanches, et tous les dimanches, j'avais une amende.
Ils payaient sans faute.
Tous les dimanches.
Mais qui aussi.
Tous les dimanches, j'avais une amende, mais ça les dérangeait pas. Pourquoi ça les dérangeait pas? Parce qu'ils disent, je sais que je paye une amende, mais l'argent que je vais gagner est plus important que le monde de payer.
C'est rentable.
C'est-à-dire que chaque dimanche, je sais pas s'il y a un flic qui se présentait ou que l'amende arrive automatiquement, chaque dimanche, il y avait un constat qui a été fait, il y avait une amende. Une amende de plusieurs milliers d'euros.
Oui.
Mais c'est pas grave. Tu vas me prendre plusieurs milliers d'euros.
Tu vas encaisser 500
voilà. Millions, enfin, moi, je vais encaisser beaucoup plus. Ça, c'est une faute préméditée. Ça, c'est un délit prémédité. C'est-à-dire, c'est pas, tu dis, bon, écoutez, j'étais devant la tentation, j'avais besoin de payer mes URSSAF, j'avais pas le choix, j'avais la tentation du gain, j'ai craqué, désolé. Il y a pas de désolé. Tu regardes l'inspecteur droit dans les yeux, tu lui dis, j'ai fauté, je refauterai. Ah, bah oui.
Tu vois quand même tous les dimanches.
Il y avait tout un scandale à l'époque avec l'enseigne Virgin.
Virgin, voilà.
C'était un scandale parce que, c'était un affront.
Il voulait travailler en France.
Oui.
Il était dedans.
C'était un affront.
Voulait travailler.
Oui, il y avait tout un scandale parce que tout le monde voulait travailler.
Oui.
C'est-à-dire le patron voulait les payer double.
C'était à l'époque, c'est le truc Brel.
D'accord.
Hollande. Oui.
Le patron, il voulait les payer double.
Oui.
D'accord. Les employés, ils voulaient travailler.
Ouais.
Tout le monde voulait. Les clients, ils sont contents d'avoir une boutique ouverte.
Le
dimanche,
c'est clair.
Et pourtant.
C'était toujours des gagnants.
Et pourtant, l'État l'interdit. Donc du coup, on est arrivé dans une sorte d'aberration dans laquelle il y a une amende, on sait qu'on va payer l'amende et c'est comme ça. Et tout le monde rigolait de ça. C'était une blague. C'était la blague du dimanche. C'était une blague. Tu mets une amende, c'est très bien qu'il n'en a rien à faire ton amende. C'est comme si aujourd'hui ils ont fait le permis à point, heureusement, parce qu'avant qu'il y ait le permis à point, c'est quoi le problème? Qui c'est qui roule vite? C'est ceux qui ont les gros bolides. Mais ceux qui ont les gros bolides, ils ont de l'argent. Donc tu l'arrêtes, tu lui dis, t'as une amende de 1000 euros. Il te les paye en cash, les 1000 euros. Il n'en a rien à faire. Et d'un autre côté, tu vas arrêter un autre qui a fait 135 km au lieu de 130, et lui il roule dans une deux chevaux, d'accord? Et tu le plumes, mais lui ça lui fait mal. Donc il dit, je comprends pas. L'autre il a roulé à 200 km/h, tu as une amende qui vaut rien. Et l'autre, il a fait un dépassement de 5 km/h et tu l'as plumé. Tu veux dire, non, mais là, j'ai mis 1000 euros, lui, j'ai mis 90 euros. Mais 90 euros pour le petit, c'est pas l'équivalent de 1000 euros pour l'autre.
C'est énorme.
C'est pour ça que j'ai mis pas mis à point.
Je crois que c'est en Suède, je crois que David d'Ordi, comme ça, il donne une contravention en fonction de tes revenus. Excellent.
Ah.
Non, en Suède.
Donc, du coup, à Bataille.
Juste avant, il y avait Israël.
Notre cas d'aujourd'hui ne ressemble pas au cas. Le cas d'aujourd'hui ne ressemble pas au cas de celui qui dit « Je ferai la faute et je ferai teshuva ». Pourquoi ? Parce que celui-là, il calcule sa faute. Et il calcule la teshuva. Nous, on ne parle pas de ça ici. Et même celui qui aurait calculé sa faute, s'il force, il peut faire teshuva. Ok ? Ah bah, à nous, mais nous... Je suis au milieu de la page 270. Ah bah, à nous, mais nous... Je suis vachim becholium. Slach la nous. Mais nous, qui implorons chaque jour, tu as dans les mots, Serge?
Oui.
269.
Oui.
270, pardon, maintenant.
Ah, pardon.
Aval à nous, mais nous, chez mes vakshim becholium, qui demandons tous les jours, slach la nous, pardonne-nous, à nous magdim in levakesh vachazire, nous butchouach le malfanecha. Nous, juste avant de demander à Dieu, pardonne-nous, on dit, Dieu, aide-nous à faire une vraie teshuva.
270.
Oui, ben c'est ça, mais
au milieu.
Au milieu.
Mais nous implorons.
Aval Anu.
Anu,
Magdim, Levakesh, Vachazirenu, Betshuva, Shlemal, Fanecha, Daïnu, Shelona, Shuva, Lekisla. Nous, quand on fait Tshuva, on n'est pas dans une démarche de calcul, de dire bon, j'ai fauté, j'ai fait Tshuva, un partout. Le lendemain, j'ai faute, 2-1. Après, je fais Tshuva, 2 partout. Pepe, on continue. Non! Quand je fais tshuva, je demande à Kadosh Baruch Hu, achazirenu b'tshuva shlema lefanecha, ramène-nous dans une vraie tshuva. Je suis conscient de ce dilemme, ce problème. Et je dis à Hachem, aide-moi à faire une vraie tshuva. Pourquoi je dis à Hachem, aide-moi à faire une vraie tshuva? Quoi, une tshuva, où elle est vraie, où elle est fausse? C'est-à-dire quoi, aide-moi à faire une vraie tshuva? Parce que je suis conscient de ce problème. Que je reviens dans les mêmes problèmes à chaque fois. C'est pour ça que je supplie Dieu, je lui dis, je t'en prie, aide-moi à revenir pour de bon. Et je veux que ça pour de bon. Ah, pourquoi t'as refauté après? J'ai craqué. Mais il n'y a pas de notion de préméditation. Quand on enlève la préméditation, c'est autre chose. On sait dans le domaine juridique aussi. Dès qu'il y a une faute avec préméditation, oui, c'est la catastrophe. Dès que c'est sans préméditation, même pour un meurtre. Un meurtre, il a tué quelqu'un.
Oui,
il y a un meurtre
avec préméditation,
et un autre meurtre sans préméditation. C'est quoi un meurtre avec préméditation? Il a prévu, il a calculé le meurtre parfait.
Il voulait le tuer.
Un meurtre sans préméditation, c'est un gars qui était là, qui était un peu corse, sans un coup de colère, il l'a embêté, il a sorti le couteau, il l'a tué. Maintenant, dans les deux cas, il y a un mort qui est là.
Le résultat est le même.
Il y a un mort. Qu'est-ce que ça change? Mazem Chané. Ouais. Ce qui change, c'est la préméditation. Préméditation devant un juge. Tu peux pas défendre la préméditation. Alors après, les avocats, ils vont défendre, ils vont dire, non, mais il était déséquilibré. Ouais. Non, mais il était pas normal. Circonstance atténuante, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que dès qu'il y a une préméditation, tu peux rien faire.
C'est logique.
Ça veut dire que, vous savez, dans tous les délits, il y a une peine qu'on donne jamais. C'est-à-dire qu'il y a des peines, par exemple, pour des délits pas très graves, on te dit 50 prisons. Personne n'aura 50 prisons pour ça. Mais il n'aura même pas un an de prison. Pourquoi on dit 50 prisons? Pour te dire que si c'est un cas dans lequel il remplit toutes les conditions, c'est avec préméditation, et il savait la gravité qu'il faisait, etc., il prendra la peine maximale. Préméditation. Est-ce que nous, on peut dire que lorsqu'on fait une faute, on l'a fait avec préméditation?
Non.
S'il y a un vrai rachat ici qui se présente. On l'embrassera les pieds. Alors, je regarde.
Dans ce cas-là, il va pas faire teshuva.
Eh oui.
Ça
sert à rien. Oui,
il n'y a pas de sens.
Non, ça veut dire.
Il y a des sens.
Il y a des gens, dans la vie, il y a des manipulateurs. Des gens qui calculent tout.
Ah oui, il y en a beaucoup, bien sûr.
Mais il y a des limites. Il y a des gens qui calculent tout. Par exemple, ils vont calculer qu'ils vont blesser quelqu'un, mais ils vont calculer comment ils vont le récupérer après. Il a tout calculé. Je vais faire ça, je vais faire une crasse à mon concurrent, qui est mon ami, d'accord? Je vais lui faire une crasse, mais j'ai prévu déjà comment je récupère. Il a tout calculé.
Ça passe pas.
Il peut mettre des larmes, si tu veux. Il y a des larmes, il peut tout faire.
Tout naturellement.
Il te fait tout ce que tu veux. Tu fais la comédie, tu fais ce que tu veux. Ça passe pas. Ça passe pas. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a fait un cours un matin. Pour expliquer le cas de, pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, on avait fait le cours pour expliquer le cas de, d'une personne qui donne un conseil à son ami, qui lui dit, je te conseille de vendre ton champ.
En fait, oui.
Et après l'autre, il découvre qu'en vérité,
le conseiller a donné ce conseil pour acheter. Hein, le conseiller était l'acheteur. Ouais. Il a donné ce conseil pour acheter le produit. Ça
même
passe pas.
Même si le conseil était bon.
Oui, c'est normal. Ça passe pas. On fait pas des choses comme ça.
Il était bon puisqu'il l'a acheté.
Oui, non, mais. Ça veut dire que on vit ça comme une trahison.
C'est une trahison.
Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de trahir Hachem? La réponse est non.
Il oblige de passer.
Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas trahir Hachem? Parce que quand je faute, je ne comptais pas sur la teshuva. Et quand je fais teshuva, je ne compte pas fauter. Vous me suivez?
Oui, une vraie teshuva, c'est vraiment, tu veux vraiment plus faire.
Allez, rabotez, regardez. Une teshuva normale, même si tu refautes. Quand tu fautes, tu comptes pas sur la teshuva. Et quand tu fais teshuva, tu comptes pas refauter. Mais si quand tu fais teshuva, tu comptes refauter, et quand tu fautes, tu comptes sur la teshuva, dans ce cas-là, les deux forces s'annulent, zéro. C'est-à-dire que ta teshuva, elle vaut rien. Ça marche pas. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Nous, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, on supplie à Kadosh Baruch Hu de plus recommencer. Et d'ailleurs, Vechen Beyom HaKippurim, également le jour de Kippour, mais Vakshim, on demande, Yehi Ratzon Milfanecha Shelo Echetaot. Dans le Al-Khet, le fameux Al-Khet, on fait le Kippour. Qu'est-ce qu'on demande? Il y a un Yehi Ratzon magnifique. On dit Yehi Ratzon, que ce soit ta volonté Hachem, que je ne faute plus.
Mais c'est pas possible, ça.
Non, mais justement, mais c'est intéressant comme demande.
Ta volonté.
Ça veut dire, je ne fais pas que demander à Kadosh Baruch Hu de me pardonner. D'abord, je demande pardon. Al-Khet, pardon. Et après, j'entends Yehi Ratzon. Je dis que ce soit ta volonté Hachem, aide-moi à ne plus refauter. Pourquoi je demande ça à Hachem? Parce qu'au moment où je fais Teshuva, je ne veux plus refauter.
Mais sincère.
Maintenant, peut-être qu'au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit, mais tu refauteras. Mais il y a une autre voix qui vient me voir, qui me dit, mais vraiment, j'ai envie de plus recommencer.
Sincèrement.
Maintenant, est-ce qu'on sait quand sera le vrai déclencheur? Des fois, il y a une faute que tu peux faire pendant des années.
À quoi ça sert de demander ça à Kadosh?
Alors, justement, je vais expliquer.
Parce que c'est impossible.
Non, mais c'est la réponse que je réponds tout de suite. Il y a des fois des gaffes que tu fais toute ta vie pendant des années. Tu sais que c'est interdit. D'accord? Chacun avec ses fautes. D'accord, on n'est pas les fauteurs anonymes ici. Donc, alors voilà.
Bonjour,
je m'appelle. Voilà. Voilà, l'arrière.
Ouais, bah. Marcello. Mais je t'aime quand même, je t'aime.
Voilà. Ouais, et après, qu'est-ce qu'ils répondent tous les autres?
Ouais. Bravo. C'est bien.
Sorti du placard.
Oui, donc
tu dis,
T'inquiète pas,
on est tous comme on est avec toi.
On est comme toi.
Bon, alors revenons aux fauteurs anonymes. Voilà, on est les tanistes anonymes, voilà. Revenons à notre histoire. Lorsqu'une personne va dire Slach lanou, d'accord, avinou kichatanou. Bonsoir.
Un coup de main peut-être. Ouais.
Bonjour.
On va dire pardonne-nous. Pourquoi il dit pardonne-nous? Parce qu'il est persuadé qu'il ne va pas refauter. Il supplie Hachem de plus refauter. Et il est convaincu qu'il ne va plus refauter. Ah, il va refauter. Il va refauter, mais lui, quand il demande à Hachem, il dit vraiment, je suis en train de répondre à la question de Michael. Une personne, des fois, peut faire une faute pendant des années. Et tous les jours, chaque fois qu'il fait Teshuva, il se dit vraiment, j'ai plus envie de recommencer. Et une fois, il y aura un déclic. On ne sait pas comment ça se passe.
C'est quoi
le déclic? C'est qu'une fois, le je ne vais plus recommencer va être vraiment je ne recommence plus.
De bon.
Et on ne sait pas pourquoi.
Ça, il n'y a pas de problème.
Vous savez chez qui on voit ça? Beaucoup. Chez les enfants.
Chez qui?
Chez les enfants.
Ah oui.
Un enfant peut me promettre 10 fois quelque chose, il recommence. Tiens, et à un moment, il y a un déclic. Voilà, c'est très difficile à expliquer ce déclic. Est-ce que ça veut dire que les fois d'avant, il n'était pas sincère?
Bien sûr qu'il l'était.
Il l'était. Alors?
Attends.
Alors,
parce que...
il a pas le déclic n'était pas assez fort. Vas-y, Michael.
Avec. Là, c'est un peu gênant parce que, en fait, ici, il y a marqué même en implant à tel endroit.
Oui.
Mais en réalité, oui. C'est le propre de notre existence de faire ce que l'on veut. Or, faire ce que l'on veut,
en troisième,
c'est impossible de faire autrement, d'allier le bien et pas le bien.
Mais au moment où tu as raison à 100%, que c'est le propre de l'homme.
En fait, c'est comme si je demandais à Kadosh Baruch Hu de changer ma nature. C'est pas
mais d'un autre côté, tu as raison. Mais ma question est tout autre. Ma question est, est-ce que la personne, au moment où il est en train de demander à Hachem Slach Lanou, est-ce qu'il est sincère à 100%? Est-ce que vraiment il aimerait ne plus recommencer?
Tout le monde est sincère, même le soulard, celui qui s'est saoulé, qui vient, excuse-moi de parler comme ça, qui vient de vomir et qui dit « Ah, plus jamais de ma vie, je vivrai. » Et 10 minutes après, il va en vie, elle est...
Pourquoi? C'est quoi le pshat?
C'est plus que lui.
Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est que là, le cas dans lequel on bloque la teshuva, c'est pas ce cas. C'est un autre cas. C'est un cas dans lequel tu as une personne qui est tout calculé. Il a prévu l'antidote et tout prévu. Ça, ça marche pas. Bon. Alors, on va dédier le cours et le chida. Leilu Nishmat. Avinoam. Barsimha. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que toute la définition que nous avons dit qu'une personne qui dit je faute et je ferai teshuva, on le laisse pas faire teshuva. C'est uniquement sur une personne qui a fauté de façon préméditée. Mais une personne qui n'a pas réfléchi, qui n'a pas calculé la faute, il est clair que, je suis en bas de la page 270, maspikin ou maspikin. Bien sûr qu'on va lui donner et lui donner l'occasion de faire tshuva. Ou Amarazal, comme les Chachamim disent. Haba litaer mesayin oto. Celui qui vient se purifier de ses fautes reçoit de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Haba daika miyad sheba. Veilazot gam amchila aslicha vamchila miyad. Et c'est pour ça que le pardon est immédiat. Très intéressant ici le détail grammatical que nous fait remarquer l'Admor HaZaken. Il nous dit, le Talmud déclare que celui qui vient pour se purifier, on lui pardonne. Il n'a pas dit celui qui sait purifier, celui qui sait nettoyer, on lui pardonne. Il a dit celui qui vient se purifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Normalement, quand une personne vient s'excuser, l'instinct humain, c'est de pas lui pardonner tout de suite. De dire, j'attends de voir, est-ce que réellement il est sincère? Ça veut dire, par exemple, imaginez que t'as quelqu'un avec lequel tu t'es fâché. Tu le vois arriver au seuil de ta maison. Au seuil de ton palier. Tu vas arriver en bas de la maison. Tu le vois arriver. Tu vas pas l'accueillir à bras ouverts et dire, ah, mon ami, t'es venu me faire la paix, vas-y, je te fais shalom, etc. Non. D'abord, tu le laisses venir, tu le laisses sonner. Tu le laisses parler, tu le laisses dire pardon, je voudrais m'excuser vraiment de ce que j'ai fait. Et là, après, tu dis pardon. Mais chez Akadosh Baruch, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch, haba litaer, celui qui vient pour se purifier, dès que tu viens, tu fais le pas pour venir.
C'est bon.
Hachem dit, c'est bon, je te pardonne. Je te purifie. C'est extraordinaire.
C'est trop facile.
Encore mieux.
C'est encore mieux. Ça veut dire quoi? Hachem te demande juste une chose. Dis-moi ce que je veux, c'est que voilà.
Tu fasses le pas vraiment, tu veux
revenir. Fais le pas pour dire que tu veux revenir. Maintenant, on n'attend pas que tu montres clairement une preuve de bonne volonté. Ce qu'on attend, c'est que tu sois sincère. Quand tu es sincère, même si concrètement dans les faits ça n'a rien produit et que tu t'es arrêté en bas du palier et t'as pas pu avancer, qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Je me dis, oui, mais il est bas l'itère, il est venu pour se purifier. Et une personne qui vient pour se purifier, je le pardonne. Donc avec ça, on conclut le deuxième palier de notre cours, on passe au troisième, le deuxième palier de notre cours qui explique pourquoi on doit être besimcha, même si on a fait des fautes. Pourquoi? Parce qu'on doit être convaincu qu'Hachem nous a pardonné. Tu as fait tshuva, Hachem t'a pardonné. Est-ce que tu rentres dans le cas de figure d'une personne qui a compté sur la faute pour faire la tshuva? D'abord, même une personne comme ça, s'il force, il peut rentrer. À plus forte raison, si toi, comme la majorité des juifs, tu ne rentres pas dans cette catégorie, c'est clair que Dieu t'a pardonné. Donc il faut enlever de votre esprit, de notre esprit, de mon esprit, de ton esprit, l'idée, et si Dieu ne m'avait pas pardonné? Dieu t'a pardonné, je le signe, je le confirme, je le valide, point barre. Tu enlèves ça de ta tête. Voilà. T'as fait tshuva sur ce que t'as fait, la faute est pardonnée.
Alors pourquoi on est en exil?
Parce qu'on continue à fauter.
Mais ça va jamais s'arrêter cette histoire.
C'est pas la faute.
En exil, on continuera de
fauter. Bah oui, il faut faire tshuva, il faut s'arrêter de fauter.
Mais bon, bon.
Alors, comme a dit monsieur, je sais pas qui a dit ça, je crois que c'est Serge qui a dit ça. Et là, on arrive au troisième palier de notre cours. Serge, il dit, oui, mais c'est trop facile.
Ah oui, c'est trop facile.
Oui. Trop facile. C'est-à-dire que le gars, il faute 400 fois d'affilée.
Il a commencé, moi, je, pardon.
Alors, c'est vrai qu'il est sincère. Bon. Joker. À chaque fois, il dit, je veux pas refauter. Exactement, il ressort à chaque fois le Joker. Joker, pardon, Joker, Joker. Non, mais attends, ça va.
C'est bon, trois fois.
Ton Joker, il est usé. C'est fini, on le connaît ton Joker. C'est plus un Joker, c'est une surprise, là, c'est. Ouais, okay, un Joker. On le connaît ton Joker. Ça marche pas comme ça. Donc, la question qu'on se pose, c'est, est-ce que réellement tu crois qu'on peut effacer une faute avec une déclaration d'intention. De dire je recommencerai plus.
Oui, c'est les sincères.
Bon, alors deux secondes. Je vais vous poser une question. Imaginez une personne, par exemple, qui a fait un dégât considérable. Il a pris un tableau qui valait très 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 cher, qui valait des millions. Il prend ce tableau, il le déchire. Bah, il le déchire, il le tue. Après, il s'excuse.
Trop tard.
D'accord. Il s'excuse et ce tableau appartenait à son père. Il lui présente des excuses les plus sincères et son père lui excuse. Non mais bon, ça ne veut pas dire que je t'excuse, mon fils. Bon, très bien. Est-ce que le tableau a été réparé pour autant ?
Non.
Ah oui, non.
Non. Ça veut dire que concrètement, la faute que j'ai faite, même si on ne m'en parle plus,
elle existe toujours.
Mais l'impact est toujours là.
Pourquoi tu m'en parles, si tu m'en parles plus là ? Pourquoi tu m'en parles là maintenant si tu m'en
Non,
parles
moi je t'en parle pas. C'est toi qui vas t'en parler.
Quand des remords, ça fait tu veux dire.
Ah oui.
Ah oui. C'est...
Parce que c'est. Si en fait, c'est comme dans le droit. Il y a deux choses. Il y a la notion de casier judiciaire. Bon, est-ce que c'est punissable ou pas punissable ? Et après, il y a la notion de la conscience morale. Du moins, une personne, il a fait une crasse, il a fait quelque chose. Il a purgé une peine en prison. Il a fait une faute grave, il a purgé une peine. Il a payé sa peine. On dit, il a payé sa dette à la société.
Voilà, exactement.
D'accord ? 10 ans en prison. 20 ans en prison. Bon, il a fait 20 ans en prison. Mais quand il sort 20 ans de prison, la personne qui l'a tué n'a pas ressuscité.
Ah oui, bien sûr.
Et quand il était en prison, il avait du temps pour réfléchir.
Ah oui.
Maintenant, est-ce que d'après la loi, on peut l'arrêter encore une fois, cette personne-là, pour le meurtre qu'il a commis il y a 20 ans ?
Non.
Non, pourquoi ?
Il a payé sa dette.
Parce que son meurtre a été pardonné.
Non. Non.
Acquitté.
Par
le fait qu'il
est. Non, justement.
On dit il a été pardonné, il a payé.
Il a payé quoi ? Il a payé non, qu'est-ce qu'il a
années de prison.
Il a payé à qui ? Il a payé à quoi ?
Ah oui,
à la société.
En quoi il a payé ? Il a payé quoi ? Qu'est-ce qu'il a payé ? Donc la privation de liberté lui a accordé le pardon.
Oui, c'est dur, mais je veux dire mais le mec il est mort quand même malgré tout.
D'accord.
Lui il sort de prison,
va donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a pardon et il y a réparation.
Oui,
se faire pardonner une faute, se faire acquitter si vous préférez d'une faute,
okay, c'est, bon.
C'est une chose. Mais réparer la faute, peut-on réparer une faute ? Le problème, c'est qu'on peut jamais réparer une faute. Pourquoi ? Parce que même si j'arrive à réparer la faute au niveau dans lequel je me trouve maintenant, mais l'année prochaine, je serai à un niveau encore plus élevé et je réaliserai encore plus la gravité de la faute que j'ai fait la veille. Donc, je devrais faire une chose encore plus profonde.
Mais
encore plus profonde. Et comment le roi David résume ça ? Le roi David résume ça en trois mots. Dans le psaume 51. Psaume 51, c'est un grand psaume. C'est le psaume qui a été compilé par le roi David sur la Teshuvah. Lorsque Nathan, le prophète, est venu le voir après ce que David avait fait avec Bathsheba. On ne peut pas appeler ça une faute, parce que ce n'est pas vraiment une faute, mais lui considérait ça, on va dire, lui considérait ça comme une faute. Et là-bas, le roi David dit un mot très fort. Il dit, ma faute est tout le temps devant moi. Ma faute est tout le temps devant moi, face à moi. Nec dit. Pourquoi ? On vient d'expliquer, là. On vient de dire que je dois avoir la conviction la plus profonde au monde que Dieu m'a pardonné. Alors comment le roi David, il peut venir et dire, ma faute est tout le temps devant moi ? Ça va expliquer à Azmon Razaka, il dit, c'est autre chose. Lorsqu'il dit, ma faute est tout le temps devant moi, c'est pas pour que tu dises, je suis un bon à rien, ma faute n'est pas pardonnée. C'est pour que tu apprennes à trouver un niveau encore plus profond et encore plus profond dans la Teshuva. Vous me suivez ? On va lire dans les mots, après on va expliquer, parce que c'est pas simple. Page 271. Uma Shekatouv. Troisième paragraphe. Uma Shekatouv et Khatati Negdi Tamid. Le verset qui dit « Et ma faute est constamment devant moi ». C'est le verset du roi David. Comment peut-il dire « Ma faute est tout le temps devant moi » ? S'il dit que sa faute est tout le temps devant lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il pense qu'il n'a pas été pardonné. Or, on a expliqué que une faute sur laquelle on a demandé pardon, on est pardonné. Alors, comment ça marche ? Il dit, le demande à Zaken, « En hamechouvan liyot tamid etzav enivzeh chazé shalom » L'intention de la déclaration du roi David en disant « Je suis, ma faute est tout le temps devant moi », c'est pas pour rester sans cesse triste et honteux de ses fautes et dire « Ah, j'ai pas été pardonné ». Parce que c'est faux, t'as été pardonné. Et toute chose, un passé, un présent, un futur. Bon, c'est-à-dire qu'il y a... Voilà, j'ai été pardonné. Seulement quoi ? D'actif battré, tachmini, se sont vestis, bravo, dismerreni. Le roi David, juste après, dans le psaume 51, il parle de la joie. Or, s'il parle de la joie, c'est-à-dire qu'il a été pardonné. Alors, comment peut-il dire juste avant, ma faute est tout le temps devant moi ? Mishum she tzarich liot kol imam b'tshuva ilay shebisimcha rabba kanal. Le roi David sait très bien aussi que pour avoir la teshuva de haut niveau, il faut la simcha. Sans la simcha, tu n'as rien. Et la neg didaika. Kemo ba'ata titiatsev min neged. Là, c'est encore une fois un détail grammatical. Il dit, ma faute tout le temps, negdi. Ça veut dire quoi, negdi?
En face.
Face à moi. Il a pas dit ma faute est tout le temps en moi. Ma faute est tout le temps face à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, même si j'ai fait teshuva, et même si je suis convaincu que j'ai été pardonné, ma faute est tout le temps face à moi, dans le sens que je me rappelle d'où je viens. Et je me rappelle que je veux pas commencer à me la jouer sur les autres, dire, eh, t'as vu ces fauteurs, t'as vu ceux-là pour qui, t'as vu ceux-là, c'est des réchaïm, ils ont pas honte, ils respectent pas la Torah. Le roi David, il dit, je garde tout le temps ma faute face à moi, devant le mur, face à moi, pour me rappeler, dire, eh, rappelle-toi d'où tu viens. Tais-toi. Pas de remarque déplacée. Mais, il a pas la faute face à lui, pour dire, ah, j'ai pas été pardonné. Il en a pas fait une fixation. Le problème d'une fixation. Des gens qui ont toujours leur passé devant eux, ils en font une fixation. Et ça, c'est un problème, c'est une psychose. Il s'installe. Il y a une fixation. Il a un problème, ça le quitte pas. Le roi David n'a pas fait une psychose de ses fautes. Le roi David a gardé à l'esprit ses fautes, pas pour être angoissé. Pour tout le temps se rappeler qu'il faut être humble. Cette semaine, on est la semaine de Hod. Dans le Homer. Le Homer, on compte, je sais que chaque semaine du Homer, il y a un message. Il y a une mida. Il y a un trait de caractère sur lequel on se travaille. Et le trait de caractère sur lequel on se travaille la cinquième semaine, c'est quoi? Hod. Hod, c'est l'humilité. Et le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, le 33e jour du Homer, c'est quoi ça se fera? Hod, Shebehod. L'humilité de l'humilité. L'humilité extrême. L'humilité absolue. C'est-à-dire que le grand Rabbi Shimon Bar Yochai, si on devait le caractériser en deux mots, qu'est-ce qu'on dit? Hod, Shebehod. L'humilité. L'humilité dans l'humilité. C'est ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. L'humilité. Rabbi Shimon Bar Yochai est humble. Et c'est ce qu'il te dit ici. C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est de te rappeler d'où tu viens et où tu vas. Il y a des gens, on voit, vous savez, des fois, des gens qui font tchouva et qui oublient leur passé. Ils se mettent là à écraser tout le monde, à se prendre pour je ne sais qui. À avoir le... D'accord. Avoir... C'est une erreur. C'est-à-dire que le gars, il est là. Mais attention. D'un autre côté, la Gemara nous dit, c'est assourd de rappeler à quelqu'un son passé.
C'est ça.
Oui. Donc, c'est assourd, c'est que c'est assourd.
Assourd,
bien sûr.
De se moquer.
De rappeler. Non, son passé. Une personne qui a fait tchouva, c'est assourd de lui rappeler son passé.
C'est vrai. C'est
même s'il se prend pour un.
Non, ça c'est autre chose. Ouais. C'est son problème, comment il se prend. Par exemple, quelqu'un qui traînait dans la boîte de nuit, d'accord? Il dit pas, tu te rappelles quand on était jeunes, les bains douches?
La chassa.
Il faut pas dire ça.
Hein? Tu lui dis, ah, je me rappelle comment tu dansais aux bains douches, hein? L'autre, il a fait, tu vois, il a un chapeau, il rougit, il a ses gosses à côté, il dit, papa, c'est quoi, bain douche? La douche? C'est le mort, la douche?
On voit que. À la base, c'est une piscine.
Une fois, on l'a fait, j'ai pas compris. Boyana, il a dit bain douche, j'ai pas compris. Je lui ai dit, mais c'est quoi bain douche? C'est le bain ou la douche?
C'est une ancienne piscine. Non, c'est un bain douche. Parce qu'avant, il n'y a pas de.
C'est un endroit plein de touma. Bon, Bekitsour, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit, de rappeler à quelqu'un son passé. Mais d'un autre côté, moi, j'ai pas le droit de lui rappeler son passé.
Mais lui, il doit le savoir.
Ah, donc il a toujours en face de lui.
Pas pour se dire, je n'ai pas été pardonné.
Attention.
Pour se dire, attention, voilà ce que j'étais. Baruch Hashem, c'est du passé. Mais je ne vais pas commencer maintenant à écraser ceux qui sont encore là-bas.
C'est comme.
Parce que j'étais comme ça.
N'oublie pas.
Pas les autres.
Oui,
dans ce cas, oui.
Eh oui. Ce qu'il dit ici. N'oublie pas. Ve'amechuvan, page 272. Ve'amechuvan. L'intention principale de... Du rappel du roi David, lorsque le roi David nous dit « Ma faute est tout le temps devant moi », ce n'est pas pour être constamment triste, mais c'est au contraire « Rak levilti rum levavo ». C'est pour que son cœur ne s'élève pas trop, pour qu'il ne se prenne pas pour ce qu'il n'est pas. Très intéressant aussi, vous savez, l'admour Azaken, lorsqu'il avait eu une grande victoire, il avait eu toute une opposition pour laquelle il était en prison, etc. C'était très compliqué. Et dans la première lettre que l'admour Azaken a adressée à ses chassidim juste après sa sortie de prison, vous savez ce qu'il a dit? Comment il a commencé sa première lettre? Katonti Mikol Chassadim. Je suis petit devant toutes les bontés d'Hachem. Et il a fait une lettre explicite et expresse dans laquelle il enjoint à ses Chassadim. Il leur dit, je ne veux pas que parce qu'on a gagné maintenant, parce qu'il y avait un combat, on a gagné. Je veux pas qu'à cause de ça, on va commencer maintenant à s'enorgueillir sur nos ennemis, qu'on va dire on a gagné. Il faut toujours rester humble. même quand on a gagné. Comment tu fais ça? En te rappelant le passé. Mais là, c'est autre chose. Le passé ne vient pas pour te casser. Le passé, il vient pour te rappeler qui tu es. Pour ne pas que ton cœur se s'envole trop. Et voilà. Il dit, c'est pour ça. Veliot shval ruach bifne kol adam. Pour être un devant tout le monde. Comment tu vas réussir à être un devant tout le monde? C'est difficile. Le gars, il est tzadik. Il a fait une chouva extraordinaire, fulgurante. Comment tu veux qu'il se sente petit devant tout le monde? Quand tu te rappelles d'où tu viens, pas pour t'angoisser, mais pour te rappeler d'où tu viens, automatiquement, tu remets les choses en proportion. Et ça, c'est très fréquent, ça. On a des fois des gens qui ont fait tchouva, et qui vont être là à se moquer d'autres personnes. T'as vu, celui-là, il fait pas kippo, bon, il est en voiture, il est en ci, il est en ça. Il faut pas se moquer. Et s'ils le font, on se rappelle son passé.
Il a un chien.
Mais attention, c'est pas moi qui le... Jamais je rappelle à quelqu'un son passé, c'est à sourd. On est d'accord?
Bien sûr.
Ça, si par exemple, je vois un monsieur qui se... Je vois monsieur A qui se moque de monsieur B, et moi, je connais monsieur A, je sais que monsieur A, ça fait 20 ans, il était comme monsieur B. J'ai pas le droit de moi de dire à monsieur A, mais qu'est-ce que tu parles sur monsieur B? Toi aussi t'étais comme ça il y a 20 ans.
Ah bon?
Je fais un péché si je fais ça. Il faut le laisser réaliser tout seul. Peut-être monsieur B, s'il se défend bien, il va dire, bon, on va te rappeler donc. Lui, c'est la légitime défense. Il va dire, bon, allez. Allez, fais pas de malin devant tes gosses, les enfants sortez. Viens en parler. Viens t'expliquer. Et on va raconter un peu ce que tu as fait. C'est autre chose. Mais moi, j'ai pas le droit de le rappeler. On rappelle jamais quelqu'un son passé. Mais lui doit se rappeler. Les villes tirent les vavos pour ne pas que son cœur s'envole et qu'il soit toujours humble devant tout le monde. Kshéyé, alors on va prendre les mots kshéyé, les ikaron beninav shechatel enegad Hashem, parce qu'il va se rappeler tout le temps qu'il a fauté. Il a fauté devant Hakadosh Baruch Hu. Ve'ad Rabba, au contraire. Maintenant, on va faire un quatrième point. Et c'est le dernier point de ce chapitre. Expliquer pourquoi, parallèlement à la simcha que je sais que je suis pardonné, il est quand même important de se rappeler de son passé. Pas pour s'angoisser. D'abord pour l'humilité, mais aussi pour autre chose. Pour apprendre à accepter avec joie ce qui nous arrive. Parce que, écoutez bien ce qu'on va dire. Quand une personne, il y a des choses qui, on se souhaite de rien recevoir dans notre vie, pas avoir de problème. Des fois, Hachem envoie des épreuves. On espère des petites épreuves. On n'espère pas du tout d'épreuves. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Si tu te prends pour un tzaddik, qu'est-ce que tu vas te dire? Mais pourquoi ça m'arrive? Ok? Donc du coup, ça va te déprimer. Parce que tu vas dire, comment je vais être Bessimra? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si tu te rappelles ton passé, tu dis, peut-être que j'ai pas terminé de nettoyer. Et que Dieu, il veut me nettoyer encore plus. Hier, il m'a nettoyé, il a dit, bon, on va aller mollo avec le Gex, d'accord? On y allait doucement. Hein? Quoi?
Il y en a qui sont instaurés.
Mais c'est plus facile. C'est plus facile d'accepter ce qui t'arrive quand tu te rappelles ton passé. Quand tu as effacé ton passé et que des choses qui t'arrivent, tu as du mal à te rappeler ton passé. Parce que l'homme a tendance à oublier son passé. Et des fois, des gens qui ont fait des choses comme ça, ils ont fait des crédits, ils ont fait des choses, etc. Ils ont laissé des traces. Et les traces sont restées. Des traces financières qui sont là. Maintenant, ils disent, non, mais c'est un truc qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 10 ans, tu peux raconter ce que tu veux. Et les traces. Vous savez qui est très fort dedans, et c'est malheureux en vérité. Les Américains. Vous savez que chez les Américains, en Israël c'est un peu comme ça aussi, mais c'est pas aussi fort qu'en Amérique. Chez les Américains, la survie numéro un de l'homme, c'est quoi? Le crédit. Chaque personne, vous savez ou pas? Chaque personne a un crédit. Un crédit, c'est une note, un score. Chacun. Chaque personne, au-delà de 18 ans, il a un score. Un score, je crois, qui démarre à 600 et qui peut monter jusqu'à 1000.
Il vient en Israël
aussi. Mais c'est quoi ce score? C'est un score qui rassemble tout ce que tu fais dans la vie. Par exemple, tu as les crédits, est-ce que tu les payes à temps? Si tu as une échéance, tu n'as pas payé, tu perds des points.
Ah, d'accord. Oui.
Tu as l'électricité, tu as payé à temps. Tu as la voiture, tu as payé à temps. Mais tout.
Si tu n'as pas de crédit, tu perds des points.
Oui.
Tu dois prendre des crédits.
Bien sûr.
Pour pouvoir les payer.
D'accord. Non,
oui, bien sûr.
Ah bon,
mais tout le monde, hein. Tout le monde a un crédit. Moi, quand j'étais aux États-Unis, quand j'habitais aux États-Unis, là-bas. Bah oui, bien sûr, j'habitais là-bas. Toute personne qui est là-bas, j'avais un visa. Toute personne qui est là-bas a un crédit.
Ah d'accord.
Crédit, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de crédit bancaire, j'ai rien du tout.
Tu as une cote.
Le crédit, c'est un score. C'est comme un score. C'est une cote. Comme dans les jeux, tu vois. Les jeux, t'as un score.
Et quand tu vois rien, tu prends un crédit pour que
j'en ai un score qui t'accompagne tout le temps. Il te lâche pas.
Et il se passe tout ça, les banques pour voir ce que c'est bon.
Nous, alors, on dit, et d'ailleurs, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le nettoyage de crédit.
Oui,
nettoyeur.
C'est quoi les nettoyeurs de crédit, David?
Les flancheurs.
Ah. Non, justement, t'es avec, t'étais en mode de jongleur. T'es pas américain, rassure-moi. C'est pour les américains.
On casque.
On lâche.
Non, alors voilà. Il y a des façons qui vont aller pour aller récupérer, pour aller voir, pour aller trouver des failles dans ce qui avait été écrit, ce qui était faux, etc. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de te rappeler de ton passé te permet de mieux accepter ce qui t'arrive. Et de pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Parce que quand tu te prends pour ce que tu n'es pas, tu n'acceptes pas ce qui arrive. Quand tu remets les choses en proportion, tu dis voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui m'arrive. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça arrive très souvent dans la vie, et ça, on doit être honnête avec nous-mêmes. Lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, si on analyse un peu ce qui nous arrive, en général, on peut le comprendre. Bien sûr, il y a des choses qu'on comprend pas, qui nous dépassent. Il y a des exceptions. Mais les petites choses de la vie qui t'arrivent, en général, c'est lié à ce que tu as fait. Tu cherches bien, tu comprends que Dieu t'a envoyé un clin d'œil. Tu cherches, tu trouves. Des fois, on te trouve plus facilement, des fois, on trouve plus difficilement, mais il faut chercher. Mais si tu te prends pour un tzadik, tu vas retrouver. Tu vas te dire, oh, je suis un tzadik, je mérite pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il va dire, le chmar? Il va dire, non, mais en fait, je paye pour les fautes des autres. J'ai des gens comme ça, tu vois. Tu dis, soit t'es ceux qui vont dire, je comprends pas. Bon, comprends pas, c'est un niveau de pas comprendre. Soit ceux qui vont dire, non, moi, je suis parfait, moi. Alors, pourquoi? Je paye pour les fautes des autres. Tu sais, comme le tzadikim. Le tzadikim, il dit, Hacham nous, bagad nous. Pourquoi il en a fauté? Il a pas fauté. Il fait pour les fautes des autres. Donc, ça, il y en a qui disent. Donc, il y en a qui, de la même façon, tu des fois des gens, Baal-Tshuva, il est tellement d'une autre planète qu'il dit, moi, je suis clean, je fais pour les fautes des autres. Et là, vient le roi David, il lui dit non. Il dit, Baba, Vechatati, Nagdi Tabid, ma faute est tout le temps en face de moi. Pas pour m'angoisser, pour me rappeler d'où je viens, pour me rappeler que, une fois, Kadosh Baruch Hu, il nettoie encore plus.
Baba, c'est un marotin, hein, ça?
Ah oui. Il nettoie encore plus. Baba. Ok? Viens. Bon. Vaderaba, au contraire, Lein Yanasimcha, page 272. Vaderaba, au contraire, Lein Yanasimcha, concernant la joie, Yo, il zikaranachet, beyeter seet, le souvenir de la faute sera d'autant plus efficace, birde, le kabel, besimcha, kol, amerot, amitrakshot, vaot. Pour accepter, avec joie, tous les événements qui arrivent. Les événements qui arrivent. Ben minashamaim, ben eletabériot. Très important ce qu'il rajoute. Dans les événements qui arrivent, il y a deux catégories. Il y a les événements qui arrivent du ciel, et il y a les événements qui arrivent par des gens. Par exemple, t'as une machine à laver, elle est tombée en panne. Il n'y a pas un monsieur qui est venu te casser ta machine à laver. Elle est tombée en panne. T'as une voiture qui est tombée en panne. Bon, Dieu préserve, je ne vous le souhaite pas, à personne. Pourquoi elle est tombée en panne? Hacham, il a décidé comme ça. Alors, des fois, t'as une personne qui t'a fait une crasse. Donc là, il y a une personne, il y a une bria, il y a une créature qui m'a fait une crasse. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un dommage qui m'a été causé. Moura Zaka te dit, peu importe le dommage, qu'il a été causé par Dieu directement, ou qu'il a été placé indirectement par quelqu'un d'autre. Dans les deux cas, quand tu te poses la question pourquoi c'était arrivé, oublie que c'est monsieur un tel qui t'a fait. Ça, c'est Dieu qui réglera son compte. Ce que tu dois voir, c'est qu'au final, t'as eu un dommage, qui est passé soit directement, soit indirectement, mais il y a eu un dommage qui est venu. Pourquoi il est arrivé, ce dommage? Comment ça se fait?
Généralement, on sait pas.
Généralement, on sait pas, mais quand on a des choses reprochées, on comprend. On dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, j'ai compris. Tu veux me pardonner. Tu veux me nettoyer. Comme dit le pasouk, que Akadosh Baruch Hu éprouve ceux qu'il aime. Alors, on espère ne pas avoir ce problème-là. Mais en réalité, c'est comme ça. C'est-à-dire que, quand Akadosh Baruch Hu nous aime, il veut nous nettoyer. Quand t'as un enfant qui s'est sali, il était dans la boue. Il est parti jouer dans la boue. Ok? Il va rentrer à la maison. Qu'est-ce que lui fait sa mère?
Une douche.
Pas, une douche. Ça part pas avec une douche.
Faut frotter avec.
Même un bain, ça part pas. Faut frotter. Avec quoi on va frotter?
Karcher. Hein? Avec l'éponge qui frotte. Hein?
Avec, on va frotter avec une éponge qui frotte. On a l'éponge qui frotte. Elle fait mal, le gosse il hurle. Son bras il va être rouge. D'accord? Et la mère elle dit c'est pour ton bien. Il comprend pas le petit. Il dit qu'est-ce que c'est pour mon bien? Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Tu me fais mal. Seulement nous on sait que c'est pour notre bien. Mais ça, l'enfant il a pas le recul pour le comprendre. L'enfant il a pas le recul. L'enfant il dit je comprends pas. Il y a une dame qui est là, qui prend un truc qui est en train de me charcuter. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais celui qui voit de loin et qui est plus adulte, il sait que non, il t'aime. De la même façon, Akadosh Baruch Hu nous aime. Et peu importe que ça passe par les créatures ou que ça passe directement par Akadosh Baruch Hu, ça ne change pas. Si quelque chose m'est arrivé, c'est que Dieu l'a décidé. Très important à préciser ça. Parce qu'il y a des fois des gens qui ont des crasses qui leur arrivent dans la vie par un ami. Et ça passe pas. Et ici, c'est Dieu qui m'envoie, je prends. Bon, Dieu l'envoie. Mais quoi, un ami qui m'a envoyé? Il va voir ce que je vais lui faire, je vais me venger. Je dis, mais je comprends pas. Est-ce que tu penses que si c'est arrivé, ça ne veut pas dire quelque part que Dieu a accepté que c'est arrivé. Parce que si Dieu ne voulait pas que ton ami te fasse ça, il aurait pu lui envoyer une crise cardiaque, Dieu préserve, ou il aurait pu le faire glisser sur une peau de banane, on va être gentil. le problème, c'est si Dieu ne l'a pas fait, c'est quoi? C'est qu'il a laissé faire.
Aujourd'hui, on
croit. Savez, c'est très dur ça comme phrase, parce que ça explique, parce que c'est très compliqué dans les rabbins. Elie Wiesel, il raconte que lorsqu'il était devant le rabbi, il a posé la question au rabbi, la grande question que tout le monde posait: où était Dieu pendant la Shoah?
Qu'est-ce qu'il a dit?
Et le rabbi lui a répondu: où Dieu n'était pas pendant la Shoah. Mais bien sûr, c'est une réponse très profonde. Ça veut dire que le juif croyant, il comprend que derrière tout ce qui s'est passé, il y a Dieu. Maintenant, c'est clair que Hitler reste un, j'ai même pas envie de dire créature, reste un marchemo, d'accord? Et qu'il est puni, qu'il continuera à être puni pour ce qu'il a fait, d'accord? Mais le juif croyant comprend que 6 millions de personnes qui partent, ça peut pas être la décision d'un homme. Pas possible. La réussite qu'il a eue, c'est une réussite qui est, j'ai pas envie de dire le mot divine parce que je veux pas mélanger à Dieu, hein?
Anormal.
Donc c'est clair que, maintenant, pourquoi? C'est pas parce que je comprends pas pourquoi que je veux dire que si Dieu n'est pas là. Moi, je comprends pas pourquoi. Et il faudrait qu'un jour Dieu nous l'explique. S'il le voudra. Mais c'est pas parce que je comprends pas que ça veut dire que Dieu n'était pas dans les coulisses. Alors qu'est-ce que Dieu avait derrière? J'en sais rien. Et il faudra expliquer parce que c'est inexplicable. Je sais pas quel père a dans les coulisses, dans l'esprit de tuer 6 millions d'enfants, même pour le bienfait d'autres enfants. On tue pas un enfant pour un autre, ça marche pas.
C'est pas compréhensible.
Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. En tout cas, ce qui est clair, ce qui est clair à Bataille, c'est que quand tu as une crasse qui arrive, peu importe que la crasse arrive directement de Dieu, ou qu'elle arrive par un ami, ou par une autre personne, le juif religieux, il est confiant, il est conscient que ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il accepte. Pas, quand on dit il accepte, c'est pas qu'il tend l'autre joue. C'est les autres qu'on dit. Nous, on tend pas l'autre joue. Parce que les souffrances, c'est pas bien les souffrances. Mais d'un autre côté, on sait encaisser. Tu sais encaisser, tu comprends. Tu comprends. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre, tu vois. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez. Bon, c'est un exemple qui est théorique, évidemment, hein, qui n'existe plus aujourd'hui, mais. Imaginez dans la réalité d'il y a 100 ans, d'accord. Un père qui rentre à la maison, tu vois. Le fils, il est là, il a rien fait du coup. Le père, il décolle une droite au fils. Je lui ai dit, pourquoi, papa?
Comme ça, je suis narré.
Tu sais très bien pourquoi. Good, c'est vrai pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Alors, il faut qu'il essaye de se rappeler que, en fait, il a fait ci, il a fait ça, c'est compliqué. C'est pour ça que dans la relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas simple. Parce que des fois, tu dois être là, essayer de te rappeler, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais est-ce que je le méritais? Est-ce que je le méritais pas? En vérité. Le juif croyant est conscient que tout ce que Akadosh Baruch Hu lui envoie, c'est pour son bien. Oui, mais ça, monsieur Benita, pour dire ça, vous devez être en mesure de comprendre et d'estimer et de jauger la gravité d'une faute. Or, on est incapable de jauger la gravité d'une faute. Vous savez quoi? À mon avis, mais je n'ai pas les outils pour le mesurer, à mon avis, l'impact de la faute est plus grave que la punition qu'on reçoit.
Ah oui, d'accord. Et les dégâts que tu continues tout à l'heure, t'as déchiré un tableau à 1 million d'euros.
L'impact que je cause par mes fautes est plus grave que la punition que Tartempion recevrait. Mais j'ai pas les outils pour le juger. J'ai pas les outils. La Shoah, ça reste une question.
Oui, mais. Indépendamment de ça, quelle est la faute qu'ils ont fait lorsqu'on a détruit le premier?
Qui vous a dit qu'il y a une faute?
Ben il n'y a pas eu de faute.
Ah bah, ça, c'est vous qui avez dit qu'il y a une faute. Moi, j'ai pas dit qu'il y a une faute.
Amalek t'a attaqué gratuitement, c'est marqué.
Non, mais Amalek t'a attaqué, mais il a perdu.
On n'a rien fait.
Amalek t'a attaqué, il a perdu.
Pourquoi il a perdu? Il est encore là?
Non, mais Amalek qui t'a attaqué dans le désert, il a perdu. Ce Amalek n'a pas perdu.
Amalek, il est là encore. Bah,
ce Amalek, il n'a pas perdu.
Gratos, c'est marqué gratos.
Ok? Oui, mais il a perdu. Il est venu pour t'attaquer, il a perdu.
Ce qui pourrait nous satisfaire, c'est le retour du jour.
Bien sûr. Bon, on va terminer. Alors, Vezu Etzatova, nous dit l'Admour Hazaken, page 273. Vezu Etzatova, et c'est là un conseil judicieux. Écoutez ce conseil. Leinatzel Mikaas Mikol Minekpeda, pour se préserver de la colère et de toute forme de contrariété. Comment on va se préserver? En ayant conscience que ce qui m'arrive est voulu par Hachem. Parce que, pourquoi je m'énerve? Parce que je pense que ce qui est arrivé est imprévu.
Injuste
et imprévu. Je dis, c'est pas ce que j'ai prévu, donc c'est pas normal. Mais si tu te convaincs et tu crois, t'as la confiance, qu'en fait, ce qui t'arrive était prévu par Hachem. Donc finalement, quand tu t'énerves contre qui? Contre Hachem. Ah, là, c'est différent, là. Tu dis, l'admor zaken, c'est Eretz HaTova. Ça, c'est un bon conseil. Un conseil judicieux pour se préserver de la colère et de toute forme de contrariété.
C'est quoi la différence?
Maintenant, même si le préjudice a été causé par un tiers, donc là, je dis, attends, j'ai toutes les raisons de m'énerver, on te dit, le tiers, le fait que le préjudice soit passé par un tiers, c'est un autre problème. Le tiers, son compte sera réglé par Hachem. Mais la question que tu te poses, c'est pas le fait que le préjudice est passé par un tiers. C'est comment j'ai pu avoir un préjudice. Si j'ai eu un préjudice, c'est quelque chose. C'est quelque part, je devais l'avoir. Pourquoi? J'en sais rien, mais je devais l'avoir. Alors quand tu as des choses à te reprocher, c'est plus facile.
Ouais. Qui dit qu'il n'y a pas des choses à te reprocher?
Voilà, donc c'est plus facile.
Non, moi, non.
Quand on sait rien, c'est celui qui crée le préjudice, mais lui il te prend, lui, comme vous, qui est mystère de son histoire.
Donc,
toi tu t'énerves avec lui, c'est même pas pour moi la limite.
Bon, alors enfin, on va terminer.
Ça arrive tous les jours, ça.
Donc, Marazal, comme les Chachamim nous disent, « Ané lavi venam olvim ». Nos sages nous disent la chose suivante, que ceux qui ont la plus belle qualité sont ceux qui sont humiliés, mais qui n'humilient pas à leur tour. Shomim Rarpatam Venam Eshivim, qui entend les insultes proférées contre eux et qui ne répondent pas. Aussi Me'ahava, on entend pas l'autre jeu, attention. Aussi Me'ahava Usmechim Beisurim, qui agissent par amour et se réjouissent dans l'affliction. Comment tu expliques cette Gemara? Gemara dans le traité Shabbat. Comment tu expliques ça? Qui entendent, qui sont humiliés et qui n'humilient pas à leur tour. Qui entendent l'insulte proférée contre eux et qui ne répondent pas. S'ils ne répondent pas, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de répondant. C'est parce qu'ils ont compris que derrière le préjudice qui était causé par l'insulte, il y avait la main d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le fait que le préjudice soit passé par monsieur Intel, ça c'est un autre problème. Ça je pourrais le voir après en privé, je dis écoute, le fait que moi j'ai eu un préjudice, c'était voulu par Dieu. Mais ça m'a quand même fait de la peine que c'est passé par toi. Mon ami.
Et après?
Non, voilà. Je dis écoute, ce qui m'est arrivé, certainement que ça devait m'arriver. Mais ça m'a fait de la peine que tu as été le bourreau par lequel c'est passé. Je serais attendu que ça se passe par quelqu'un d'autre.
Quelqu'un qui t'a arnaqué, grave, c'est Hachem qui a voulu.
C'est que Dieu avait prévu qu'une arnaque devait arriver. Mais bien sûr.
Il va se prendre.
Mais bien sûr.
Mais moi j'ai un cas, je peux dire.
Non, pas de nom.
Il y a 20 ans, quelqu'un qui m'a fait un coup.
Et tu l'en veux jusqu'aujourd'hui, il faut pardonner.
Bah oui.
Pardonne.
C'est comme lui qui a le goût.
Ah, regarde la suite, c'est pour toi la suite. Vechol ama avir al midotav. Et quiconque passe sur ses ressentiments, ça veut dire qu'il met de côté, Akadosh Baruch Hu passe sur ses fautes. Donnant.
Moi, je suis d'accord.
Ça veut dire si toi, tu es pointilleux sur celui qui t'a embêté, tu dis non, je ne pardonnerai pas jusqu'à la tombe. J'irai sur sa tombe, écrire. Il a planté sur ses bottes.
Lui, il regrette. Je le pardonne.
J'irai, j'attends qu'il meure. Et j'irai rajouter une mention. D'accord? Alors, non, je plaisante. C'est un peu méta de Corse, quoi, tu vois. Voilà. Tu dis, on l'écrira en...
Il s'amérite.
D'accord? On te dit celui-là, hein. Non, justement. On te dit, celui qui est Ma'avir al-Midotav. Ça veut dire qu'il laisse passer.
Ouais.
Qui dit,
ça c'est bien.
Il laisse passer. Il dit, bon, lui il m'a fait ce qu'il m'a fait. C'est entre lui et le bon Dieu.
Ah, non, comme des comptes avant.
Tu laisses passer.
Voilà.
Mais ça, c'est plus tes affaires après. Moi, je dis à Hachem, moi, je me décharge. C'est pas mes affaires. Moi, je pardonne. Si tu pardonnes facilement, Hachem te pardonne facilement tes fautes. Parce que si tu es pointilleux sur une crasse que quelqu'un d'autre t'a fait, pourquoi tu veux qu'Hachem te pardonne facilement une faute que toi tu as fait? Parce que tu comprends. Non, mais regarde. L'autre, lorsqu'il t'a fait une crasse, même s'il est venu te dire pardon, tu veux dire, oui, mais il a dit pardon, mais il pensait pas vraiment. Après, tu veux dire, oui, mais il pensait pas vraiment. Après, le type va dire, bon, écoute, je t'ai emprunté 20 000, je te rends 15 000, j'ai pas plus. Et toute sa vie, tu l'en voudras, parce que tu diras, ok, c'est bon, donne-moi 15 000. Et après, tu vas voir pas derrière, il va acheter, il va faire des grandes vacances. Il dira, il m'a jamais les 100 000, pourquoi il les a pas donné? Et toute ta vie, tu garderas. On te dit non. La Gemara te dit non. Par exemple, la Gemara te dit non. Elle te dit, une fois que l'affaire est close, tu jettes. Ne garde pas ça. Tu gagnes rien à garder ça.
Exactement.
Tu gagnes rien.
Moi je suis d'accord. Gagnes...
Et si toi tu montes à Kadosh Baruch Hu que tu parce que tu comprends, si toi tu montres à Kadosh Baruch Hu que tu évacues, Kadosh Baruch Hu aussi il évacue les fautes. Il dit bon, moi aussi j'évacue. Mais si c'était pointilleux, il est pointilleux. Donc vous voyez, 4 points on a développé dans ce cours. Enfin, dans les deux cours qu'on a fait la semaine dernière et aujourd'hui, mais 4 points dans ce chapitre 11. Premièrement, on a expliqué que la joie et la tristesse n'étaient pas incompatibles. Ne sont pas incompatibles, on peut avoir les deux en même temps, avec l'exemple du Rabbi Lazare, de Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon. Deuxièmement, on a expliqué que une des grandes raisons pour lesquelles les gens qui font tchouva sont déprimés, c'est parce qu'ils se doutent si leur tchouva a été acceptée ou pas. Ça, on a expliqué qu'il doit avoir la émouna que la tchouva a été acceptée. ta teshuva a été acceptée. Point barre. C'est terminé. Et que même dans le cas d'une personne qui a dit je faute et qui compte sur ta teshuva, même lui on le pardonne. La plus forte toi qui ne comptais pas sur ta teshuva. Ça c'était le deuxième point. Troisième point qu'on a expliqué en cours d'aujourd'hui, c'est la notion de la faute qui est tout le temps devant mes yeux. Se rappeler tout le temps qu'on a fauté. Pas pour s'angoisser. Pourquoi je me rappelle tout le temps de ma faute? Pour d'abord ne pas m'enorgueillir sur ce qui est faute encore. Je me rappelle d'où je viens. Et quatrième point, on a expliqué, pour accepter avec joie ce qui m'arrive. Quand je me rappelle qui je suis et d'où je viens, quoi de choses qui arrivent, et ben je dis bon, Hachem, j'ai compris. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on se souhaite de ne pas être confronté et concerné par tout ça. On se souhaite d'entendre que des bonnes nouvelles, des vraies bonnes nouvelles, des nouvelles qui sont positives. Mais en tout cas, on comprend comment le Baal Teshuva doit être convaincu que Hachem l'a pardonné. Voilà. La semaine prochaine, si Dieu veut, on étudiera le chapitre 12. C'est un tout petit chapitre. Donc probablement que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on terminera le Yigirat Teshuva. Après, on passera à autre chose. Donc je vous avais dit, Yigirat Teshuva, c'est relativement court. Je pense qu'on finira pour Shavuot. De toute façon, avant Shavuot, on aura un cours hors série. Donc voilà, on aura fini pour Shavuot. C'est une bonne chose. Voilà.
D'accord. Nickel.